Attention pour le décompte final.
3. Espace. Frontière de l'infini.
Le temps, l'espace et la matière.
Décollage.
L'actualité spatiale sur France Bleu Occitanie, c'est à découvrir le samedi et le dimanche avec Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité avec un grand A. C'était le 14 mars, Starship a refait un vol, le plus grand lanceur du monde, et ça a raté.
Alors, on va dire que techniquement, ça a raté, en ce sens que les objectifs, l'ensemble des objectifs affichés avant le vol, cet ensemble-là n'a pas été atteint. Mais d'un autre côté, il y a des étapes importantes qui ont été parfaitement faites, et surtout, le vol numéro 3 du 14 mars, le IFT-3 Integrated Flight Test, il s'est mieux déroulé que le numéro 2. Donc à chaque fois, si on avance, ma foi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que cette démarche qu'on qualifie d'itérative, de disruptive, etc., elle choque dans le spatial aujourd'hui encore. En gros, on modifie, on essaye, on casse, on comprend, on modifie, etc. Et c'est vrai que sur un lanceur de 5000 tonnes au décollage, la démarche est assez inhabituelle. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Le décollage a été réussi. C'est pas rien, parce que n'oublions pas que le premier étage du Starship, qui s'appelle Super Heavy, c'est 33 moteurs Raptor qui fonctionnent ensemble. Les Raptors, c'est des moteurs qui consomment du méthane et de l'oxygène liquide. Faire fonctionner 33 moteurs, c'est pas évident. La preuve, le premier vol s'était mal passé de ce côté-là. Le deuxième, bien. Le troisième, bien. Premier gros succès, c'est le fameux hot staging, c'est-à-dire la séparation à chaud des deux étages, à 72 km d'altitude quand même, après 2 minutes et 50 secondes de vol. Elle s'est très bien passée. La fois précédente, n'oublions pas que le premier étage avait explosé très peu de temps après. Là, le premier étage est revenu vers le golfe du Mexique, ça c'était prévu, mais il a été détruit à quelques centaines de mètres de la mer, donc ça c'était pas prévu. Ok, mais le grand changement par rapport au vol numéro 2, c'est que Starship, l'étage supérieur qui donne le nom au lanceur, il a atteint l'espace, il a fait une grande partie de sa croisière suborbitale, en gros c'est pas une orbite, il a atteint l'océan Indien, il est rentré dans l'atmosphère, on a eu des images absolument incroyables en direct, c'est-à-dire on voyait le plasma qui se forme, c'est-à-dire quand le vaisseau rentre dans l'atmosphère, il y a de l'air chaud autour, on a vu ce plasma, et là il a été perdu à 65 km d'altitude, alors que c'était un amérissage, pas en douceur, c'était un crash contrôlé on va dire, qui était prévu.
Bon, et juste pour terminer très rapidement, est-ce que les concurrents devraient faire pareil selon vous ?
Alors faire pareil dans la politique de développement d'un lanceur, je vous dirais que c'est presque un choix philosophique. Est-ce qu'on fait un lanceur comme par exemple on fait Ariane 6, c'est-à-dire on le développe intégralement au sol avec des essais au sol et quand il vole, c'est un vol inaugural ? Ou est-ce qu'on fait des essais, des vols, des vrais vols d'essais comme là et on accepte que ça casse ? C'est un choix philosophique. Il y en a pas un, à mon avis, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le tout, c'est d'arriver à un bon lanceur. En revanche, en matière de com, ma foi, il y a peut-être des astuces à piquer.
Et voilà, on va suivre ça d'assez près. Rendez-vous pour la prochaine réussite, même si ça explose, des Starship. Nous, demain, on revient à la même heure sur France Bleu Occitanie. On va parler de la sonde Voyager 1. C'est l'objet qui est le plus loin de nous, que nous ayons fabriqué. Et il semblerait qu'on puisse enfin le réparer. À demain.
À demain.